À Bamako et à Freetown, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. La croissance africaine est au beau fixe, c'est la conclusion d'un rapport de la Banque mondiale. Au Niger, les pays du bassin du lac Tchad se sont réunis pour lutter plus efficacement contre Boko Haram. Diffusion de cours à la télévision en Sierra Leone, les écoles sont fermées pour cause d'épidémie Ebola. Et enfin, nous terminerons l'émission par le Mali où la rentrée scolaire a eu lieu hier. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jean-Roger Billon à ce micro. Aux États-Unis, pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, des contrôles renforcés vont être mis en place dans 5 aéroports américains, selon George Earnest, le porte-parole de la Maison-Blanche. Les aéroports concernés sont JFK à New York, Newark dans le New Jersey, Dallas ici même à Washington, ainsi que les aéroports internationaux d'Atlanta et de Chicago, où 94% des passagers qui viennent aux États-Unis depuis les trois pays les plus touchés par l'Ebola arrivent dans ces cinq aéroports, selon la Maison-Blanche. Par ailleurs, Thomas Eric Duncan, patient libérien atteint d'Ebola, qui a été le premier cas aux États-Unis, est décédé ce matin à Dallas, au Texas, où il était hospitalisé. En République centrafricaine, forte tension à Bangui, où au moins 4 personnes ont été tuées dans des violences. Les activités étaient totalement paralysées aujourd'hui. Le président kényan Uhuru Kenyatta est devenu aujourd'hui le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Camille Grosdidier.
Souriant et détendu, Uhuru Kenyatta est apparu à une audience qui déterminera la date de son procès ou bien entraînera le report sine die de la procédure. Son avocat Stephen Kay a plaidé pour l'abandon des poursuites contre lui. Il a le droit de revendiquer un non coupable, a martelé Maître Kay, ajoutant que s'il y avait des preuves, nous aurions un procès. Fatou Bensouda, procureur de la CPI, avait accusé les autorités de Nairobi d'avoir refusé de livrer les relevés téléphoniques, fiscaux et bancaires de M. Kenyatta pour étayer l'accusation. En plus, ces derniers mois, beaucoup de témoins se sont rétractés. Uhuru Kenyatta est accusé pour son rôle présumé dans les violences post-électorales au Kenya fin 2007 et début 2008, qui avaient fait au moins 1100 morts et quelques 650 000 déplacés.
Les Nations Unies font état d'une recrudescence des activités des rebelles de la LRA en République démocratique du Congo. D'après l'ONU, ces rebelles ougandais opérant en petits groupes s'illustrent par des kidnappings et des pillages dans le nord-est du pays, notamment dans les districts du Bas et du Haut-Wélé en province orientale. Le colonel Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, a cependant estimé que la LRA n'avait plus sa capacité de nuisance au Congo d'il y a 2 ou 3 ans.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les milices kurdes ont repoussé les combattants de l'État islamique de Kobané à la frontière turque. Le répit est intervenu à la suite de frappes aériennes sous commandement américain. Signalons que les États-Unis et le Royaume-Uni sont prêts à examiner l'idée de créer une zone tampon entre la Syrie et la Turquie. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue britannique Philip Hammond lors d'une conférence de presse. Le principe de cette zone tampon a également eu le soutien du président français François Hollande. Les Nations Unies estiment à 331 le nombre de morts enregistrés dans l'est de l'Ukraine depuis le cessez-le-feu du 5 septembre dernier. Selon le haut-commissaire pour les droits humains, au moins 3 600 personnes ont été tuées et près de 9 000 blessées dans le conflit ukrainien de mai à octobre de cette année. Hier, les combats ont fait 12 morts et aujourd'hui, 8 civils ont été tués à Donetsk. Deux Américains, Eris Besic et William Warner, et l'Allemand Stefan Hell ont reçu aujourd'hui le prix de Nobel de chimie. L'Académie royale des sciences de la Suède les a honorés pour le développement de puissants microscopes pouvant détecter l'évolution des maladies dans les cellules dans les plus petites cellules vivantes. Et puis, économie américaine, encore de bonnes nouvelles. Le déficit fédéral a chuté à son niveau le plus bas en 6 ans, soit 486 milliards de dollars pour la récente année fiscale. C'est une baisse de 195 milliards par rapport à l'exercice précédent. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Restez avec nous. On va remonter les dunes du Sahel. C'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par Israël, une fois n'est pas coutume. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé mardi à ses ministres de préparer une nouvelle loi pour lutter contre l'immigration illégale, après que la Haute Cour ait cassé une précédente législation autorisant la détention prolongée de migrants sans procès. Plus d'explications avec Morgane Guériec.
Benjamin Netanyahou a ordonné à ses ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité publique de préparer un nouveau projet de loi au lendemain d'un débat houleux au Parlement où des députés ont vivement critiqué la décision de la Haute Cour. Le 22 septembre, la Haute Cour avait stipulé que le gouvernement israélien n'est plus autorisé à maintenir en détention les migrants pendant un an sans procès. La Cour avait ordonné la fermeture dans les 90 jours du centre d'Olo, en plein désert du Negev, où environ 2000 Africains sont retenus. Israël a déjà expulsé près de 6000 migrants. Selon les chiffres officiels, 48 000 Africains résident dans le pays, en majorité des Érythréens et des Sud-Soudanais. La plupart d'entre eux vivent dans des zones pauvres de Tel Aviv, où plusieurs manifestations contre leur présence ont été organisées.
À l'approche des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale vient de publier les perspectives économiques du continent. La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait dépasser les 5% en 2015-2016, même si l'épidémie Ebola ou les attaques terroristes continuent de susciter des inquiétudes. Luc Christiansen est économiste pour la Banque mondiale et il est spécialisé sur l'Afrique.
Les perspectives restent assez bien, c'est-à-dire qu'on prévoit que la croissance de l'Afrique devrait dépasser le 5% l'année prochaine, qui est un peu plus haut que la croissance du PIB qu'on a vu, qu'on prévoit pour 2014, ce qui est 4,6%. Donc, malgré un ralentissement, malgré une performance un peu plus faible de l'économie mondiale, on prévoit quand même que l'économie de l'Afrique continue avec une croissance assez bonne.
Alors, ce sont d'excellents chiffres. Hein. Qu'est-ce qui dope cette croissance africaine ?
Il y a 3-4 sources de cette croissance. Une source importante, l'investissement public dans l'infrastructure. Donc, les pays continuent à investir dans l'infrastructure. Donc, ça contribue à la croissance. Aussi, la demande des personnes privées, aussi long qu'il n'y a pas de pression inflationnelle trop, les personnes privées peuvent continuer à dépenser. Et on prévoit que ça continue. Troisièmement, il y a une augmentation de la production agricole après plusieurs années d'investissement. Et quatrièmement, il y a le secteur, le développement des services dans plusieurs domaines, les domaines du commerce, télécommunications, de la finance et des transports. Donc là aussi, on prévoit que ça continuera à booster la croissance. Donc tout ça se passe malgré quelques phénomènes qui ne sont pas assez positifs, c'est-à-dire on voit une baisse des prix des matières primaires et aussi un peu un ralentissement des investissements directs étrangers qui sont liés au ralentissement de l'économie mondiale. Donc malgré tout ça, quand même on prévoit que la croissance continuera pour l'année prochaine.
Luc Christiansen, économiste pour la Banque mondiale. Au Niger, une réunion extraordinaire des chefs d'État membres de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, s'est tenue hier à Niamey. Il s'agit en fait d'une réunion entre 4 des 6 pays membres de la CBLT, auxquels s'est joint le Bénin, qui n'est certes pas membre, mais qui est tout aussi concerné par la menace islamiste de la secte Boko Haram qui sévit au Nigeria. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
La réunion a regroupé aux côtés du président nigérien, président en exercice du sommet des chefs d'État de la CBLT, Idriss Déby Itno du Tchad et Goodluck Jonathan du Nigeria. Le Bénin, pays non membre de la CBLT, mais concerné par la menace islamiste de Boko Haram parce que partageant une frontière avec le Nigeria, était aussi présent avec son président Dr Yayi Boni. Paul Biya du Cameroun s'est fait lui représenter par son ministre de la Défense. Le président nigérien Issoufou Mahamadou, en ouvrant les travaux de la rencontre, a eu un mot pour les 9 militaires nigériens récemment tombés sous les balles des djihadistes au Mali.
Je suis convaincu que leur sacrifice ne sera pas vain. Ce coup dur porté contre nous n'ébranlera pas notre volonté. Au contraire, il ne fera que décupler la rage de vaincre des soldats des forces armées nigériennes dont je connais le patriotisme, le courage et le professionnalisme. Le présent sommet est une nouvelle occasion qui nous est offerte pour renouveler notre engagement dans la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé et contre les forces de la division.
La rencontre devra annoncer les dispositions utiles à prendre pour une opérationnalisation très rapide d'une force multinationale devant faire face à Boko Haram, ainsi que le préconiser la réunion des ministres de la Défense qui a précédé la tenue de ce sommet. Kariyo Mahamadou, ministre nigérien de la Défense.
Nous avons connu beaucoup d'avancées, mais l'avancée de l'ennemi commun, malgré notre mobilisation, est alarmante et nous fait croire qu'il y a encore des insuffisances dans notre organisation. Nous devons donc aller plus loin et plus vite. Aussi voudrais-je vous inviter à cette action déterminante, décisive et libératrice de notre espace envahi par les forces du mal. Aussi voudrais-je inviter les uns et les autres à se faire confiance pour que dans la cohésion et la solidarité, nous regardions dans la même direction pour regarder ensemble le danger qui menace notre environnement. Nous devons faire en sorte qu'au sortir de cette réunion, la force multinationale soit opérationnelle à très court terme, avec sa composante renseignement constituée par l'unité régionale de fusion du renseignement, la RIFU, et une structure de coordination bien huilée. La réunion de Niamey n'est peut-être pas celle de la dernière chance.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 94 FM à Arlit au Niger sur la radio Kaosen. Deux volets pour notre rubrique éducation aujourd'hui. La Sierra Leone a lancé hier des programmes d'enseignement diffusés par la radio et la télévision pour remédier à la fermeture des écoles pour cause d'épidémie d'Ebola. Le point avec Bagassi Koura.
Les cours seront retransmis 4 heures par jour, 6 jours sur 7 par 41 radios et l'unique chaîne de télévision nationale, a annoncé le gouvernement. Sylvester Meho, directeur de l'enseignement secondaire, a déclaré que les enfants devront prendre au sérieux ces programmes car, a-t-il souligné, c'est à partir de cela qu'ils seront évalués lorsque l'enseignement normal reprendra. Il a ajouté qu'en l'état actuel des choses, on ne peut tabler sur une réouverture des écoles avant début 2015. Les Sierra Leonais ont accueilli favorablement la mesure. Sam Mbayo, un fonctionnaire à la retraite à Kailahun, une province sous quarantaine, estime que tout moyen d'instruire les enfants est mieux que les laisser à ne rien faire. Les écoles sont fermées depuis l'instauration de l'état d'urgence à la fin juillet dans le pays, qui compte plus de 600 morts pour quelques 2300 cas de fièvre hémorragique Ebola.
Éducation toujours, timide rentrée scolaire au Mali, où les autorités ont décidé la reprise des cours dans les écoles fondamentales, préscolaires et secondaires. Les parents d'élèves n'ont pas les moyens, surtout que la rentrée scolaire 2014-2015 se tient 48 heures seulement après la fête de la Tabaski. Ce mardi donc, ce n'était pas la grande affluence dans les écoles que notre correspondant Kassim Traoré a visité à Bamako.
En ce mardi 7 octobre 2014, date de la rentrée scolaire 2014-2015, l'affluence n'était pas au rendez-vous dans les établissements scolaires de la rive droite de Bamako que nous avons visité. Il n'y avait que l'encadrement scolaire. Les enfants se faisaient rares.
Ce n'est pas une situation qui satisfait pleinement le cadre que nous sommes. Nous avons commencé par l'école fondamentale, nous sommes au lycée. Donc c'est vraiment un appel que je lance à toute la communauté scolaire, commencer par les parents d'élèves, cadres de l'école eux-mêmes. Il faut que les enfants soient à l'école. C'est leur avenir qui est en jeu.
Les parents et les élèves, n'est-ce pas, corrigent leur comportement. Certains, qu'on accepte de lâcher les enfants. Depuis mi-septembre, on devrait lâcher les enfants. Mais il s'est trouvé que jusqu'à présent, certains enfants sont en vacances avec les parents.
Cette première journée de la rentrée scolaire a été dédiée à des leçons sur la prévention contre la fièvre Ebola et la montée des couleurs.
Vous avez constaté que même dans les classes de première année déjà, les gens ont ce sens de ce que c'est que le patriotisme. Et c'est pour cela que nous avons commencé par la montée des couleurs.
Nous sommes prêts, comme vous l'avez constaté vous-même, à commencer cette année avec beaucoup de courage et d'abnégation. Je crois que tout le monde est au rendez-vous ce matin.
Chez les tout-petits, c'était encore pire, car bon nombre de jardins d'enfants n'ont pas ouvert. Certains préfèrent attendre une semaine après la fête de Tabaski.
Moi, c'est Abdraman Dolo, assistant directeur au jardin d'enfants, la caille des tout-petits. La difficulté, c'est que la fête vient tout dernièrement passé, c'est-à-dire avant-hier. Donc les parents viennent, ils nous expliquent les problèmes, sur le tout, les problèmes financiers. Et ces problèmes financiers aussi pèsent aussi ses parents. Le pire est dur, vraiment, les parents s'expliquent dessus, c'était parce que l'an dernier, on a eu plus d'inscrits à ces temps-ci. Cette période, c'est-à-dire la période occupée jusqu'à maintenant, je pense bien que cette année, l'an dernier va mieux que cette année.
Malgré cette rentrée timide, les autorités maliennes veulent une école performante avec beaucoup plus de rigueur.
Que les téléphones portables restent interdits avec les élèves. Nous avons rappelé que pour avoir la qualité, il faut un changement de comportement. Donc les directeurs d'école sont tenus désormais de nous envoyer des rapports. Les premiers rapports sur la fréquentation des élèves, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Parce que nous avons constaté que certains élèves viennent à l'école quand ils veulent et comme ils veulent. Nous avons dit que désormais, nous allons sanctionner. Deuxième registre, nous avons demandé au directeur d'école de nous envoyer aussi les rapports concernant aussi les comportements des enseignants. L'école ne vaut que ce que vaut l'enseignant, c'est clair.
Cette première semaine de la rentrée scolaire sera consacrée à des leçons sur la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, des notions de citoyenneté, le drapeau national, le sceau, ainsi que des notions sur la réconciliation nationale. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joselle Morissin. À la technique, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons avec un petit peu de jazz et John Coltrane qui interprète My Favorite Things. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.